Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
8h22, la grève du 5 décembre approche et plus que jamais le gouvernement se retrouve dans une posture délicate. Il va falloir arbitrer, trancher, appliquer et probablement aussi se fâcher. Bonjour Nicolas Domenac.
Bonjour à vous.
Du magazine littéraire et bonjour à Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles.
Bonjour Yves.
Nous ne transigerons pas sur l'objectif. Édouard Philippe, qui a annoncé la fin des négociations autour des 9 et 10 décembre, semble extrêmement ferme. Est-ce que vous croyez à cette fermeté, Geoffroy Lejeune?
Écoutez, je vais vous raconter une anecdote, puisque là, en fait, on a beaucoup de chance, enfin, en tout cas, dans le calendrier. Moi, il se trouve que le hasard a fait que j'étais en rendez-vous à Matignon hier, en fin d'après-midi, et que j'ai pas du tout avec Édouard Philippe, avec un de ses conseillers, mais il a passé une tête, comme on dit, vous savez, et puis il est venu discuter deux minutes.
Comme par hasard.
Et donc, je lui ai posé cette question que vous venez de me poser, et j'ai le sentiment, si vous voulez, que, enfin, j'ai vu quelqu'un, en tout cas, d'assez déterminé, en effet, sur le fait que cette réforme ira à son terme, etc. Maintenant, en fait, ça dépend quel est l'objectif. En réalité, l'objectif, c'est, en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. C'est la disparition à terme des régimes spéciaux, mais qui a priori sera donc effective à la fin de toutes ces négociations. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement cet objectif, c'est plutôt quand, comment, dans quelles conditions, etc. Et si vous voulez, c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir comment le gouvernement tranche cette affaire de clause du grand-père, etc. C'est pas du tout pareil de faire une réforme des retraites qui est effective maintenant qu'une réforme des retraites qui est effective en 2040 ou en 2060. Et si vous voulez, je pense que c'est sur le comment que le gouvernement va lâcher du lest. Donc on jugera après. C'est compliqué avec cette réforme. On n'y comprend rien. Elle est remise sur le métier tout le temps. Il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de combats même au sein du gouvernement. Donc moi j'ai beaucoup de mal à savoir aujourd'hui si c'est une bonne chose. Mais en attendant, je pense qu'à la fin ils pourront se vanter d'avoir supprimé les régimes spéciaux.
Ouais. Alors j'ai en partie une réponse à votre question, c'est que pour le rappel, si tout cela est tenu, le texte de loi doit être présenté en Conseil des ministres au début de l'année pour un vote au Parlement d'ici l'été 2020, ce qui traduit plutôt une accélération. Ils y vont vraiment, Nicolas Domenac?
On peut mettre un bémol supplémentaire ou plutôt un obstacle supplémentaire, c'est qu'il paraît, selon Le Parisien, qu'il y a des fuites à l'Assemblée nationale et que donc le Parlement pourrait pas se réunir pendant l'été. Mais enfin, c'est un dernier obstacle. Il y en a tellement d'autres avant. Pardon ?
C'est dans la toiture, je précise.
Parce dans la toiture. Fuite dans la toiture. Donc les députés sont arrosés. Enfin, tout un symbole, si j'ose dire. En tout cas, on a rarement vu une réforme engagée avec le soutien de l'opinion. Et puis ensuite une procédure de consultation qui aurait pu être positive se retourner ensuite dans des conditions qui la rendent pour le moins indécise.
Nicolas, parce que ça... on avait eu exactement la même chose avec la réforme Juppé. 60% des Français étaient favorables. Au bout de 3 semaines de grève, ils étaient 60% à être contre.
Yves Calvi, sauf
c'est
que,
la France.
Sauf que Jacques Chirac ne s'était pas engagé à faire une réforme des retraites, alors que le président de la République, lors de sa campagne, s'est engagé à faire cette réforme-là. Ensuite, nous avions des syndicats autrement puissant à l'époque. Cette fois-ci, c'était des syndicats affaiblis, mais dont on a le sentiment que le pouvoir n'a cessé de les regonfler, en tout cas de leur donner des éléments, au fond, de mobilisation, ne serait-ce qu'en les humiliant, en leur parlant mal, parce qu'on parle même quand on veut vendre, surtout quand on veut vendre une réforme difficile, je pense aux cheminots, à la RATP, on ne les traite pas comme des privilégiés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont passé des contrats avec l'État, et contrats qu'on veut changer en cours de route. Donc on n'en parle pas comme vraiment des gens qui défendraient contre l'intérêt général leur bout de gras. On les respecte. Donc je trouve que sur fond d'injustice du début du quinquennat, en plus, on a réactivé une angoisse qui était latente à chaque réforme. Vous avez raison de ce point de vue. À chaque réforme des retraites, il y a eu cette angoisse qui se manifeste parce que c'est au fond ce qui est en jeu, c'est notre patrimoine qu'on a accumulé pendant toute la vie. Donc
le problème, c'est qu'on ne la comprend plus cette.
Ah, mais plus du tout. On ne comprenait pas grand chose.
Sauf ce qui était évoqué il y a quelques instants par Geoffroy Lejeune, c'est que en gros, on a l'impression qu'ils ont effectivement envie de mettre fin aux régimes spéciaux. Et d'ailleurs, ils prennent à témoin les Français en permanence.
C'est ça. Mais au départ, il s'agissait de faire une réforme juste. Et maintenant, on a le sentiment qu'elle est injuste et qu'elle se mélange d'une exigence financière qui n'était pas prégnante au départ.
Ben c'est normal, il y a le conseil d'orientation.
Ben oui, mais tout se mélange, tout se contredit.
Non mais pardon Nicolas, moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites sur la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron avait vendue aux Français. Il faut se souvenir de ce qu'il expliquait pendant sa campagne présidentielle et il l'a écrit, c'est facile de retrouver ce programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Justement, il explique qu'il va faire une réforme des retraites son programme est très rassurant par rapport à l'angoisse dont vous parlez des Français. Il dit en gros tout va bien, le Conseil d'orientation des retraites nous dit que notre régime est financé, il y a pas besoin de faire une grande révolution, il suffit juste de changer les paramètres. Et c'est cette réforme systémique économique dont parle tout le temps Laurent Berger, qui n'est pas une réforme paramétrique pour parler comme le patron de la CFDT, qui en fait, comment dire, c'est une façon d'expliquer aux Français qu'il faut changer le système parce qu'il est injuste, parce qu'il n'est pas très efficace, etc. Mais que fondamentalement, ça ne va pas être du sang et des larmes.
On en garde l'équilibre général.
Exactement. Et aujourd'hui, moi déjà, je suis désolé, je trouve que cet objectif est toujours un peu le même. Je n'ai pas l'impression que c'est une révolution. J'entends beaucoup de gens dire qu'il faudrait agir sur les paramètres, comme dit Laurent Berger, à savoir l'âge, par exemple, et le gouvernement s'y refuse, a priori. Donc, comment vous dire ? J'ai le sentiment que c'est assez conforme à l'objectif initial, mais qui n'était pas très ambitieux en réalité. Donc, moi, je vais vous rejoindre sur un point, c'est que la manière dont ça a été vendu a été tellement confuse, avec des allers-retours à l'intérieur du gouvernement. En fait, on ne peut pas faire un grand débat à l'intérieur du gouvernement sans que ça finisse par troubler tout le monde. Donc, aujourd'hui, on n'y comprend plus grand-chose, on ne comprend plus vraiment l'objectif, et en effet, c'est compliqué d'embarquer une nation derrière un objectif aussi flou.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des choses très simples et faciles à vendre. En l'occurrence, ils veulent instaurer, et je ne comprends pas pourquoi ils ne le disent pas plus souvent, une retraite minimum à 1000 euros. Ça n'existait pas en France. On avait des agriculteurs dans la rue qui touchent à peine 350 euros il y a encore 24 heures. Ils oublient de le rappeler. Franchement, c'est quand même le meilleur moyen de vendre la réforme des retraites, quelles que soient les difficultés que ça crée par ailleurs.
Ils l'ont un peu dit à un moment,
mais on ne l'entend pas.
Pourquoi ? Parce qu'on n'entend pas dans la poche de qui ils vont prendre cet argent pour payer ces 1000 euros.
Ah oui,
alors
c'est sûr,
que nous n'avons par ailleurs pas d'argent et des prédictions catastrophistes du corps, là, comme le disait tout à l'heure Geoffroy Lejeune, qui croit encore que les économistes font des prévisions qui se vérifient au chiffre près ensuite.
L'équation n'est quand même pas très compliquée, Nicolas.
Tous les pays d'Europe ont fait cette réforme. Ils avaient fait des prévisions absolument contraires 2 ans avant, en nous assurant qu'il y avait une stabilité et qu'il ne fallait pas s'inquiéter autre mesure.
À ce moment-là, il y avait un peu plus d'argent dans les caisses, objectivement.
C'est difficile de leur accorder, de penser que ce sont les tables de la loi, quand même. Oui. Voilà, donc il y a peut-être d'autres moyens, d'autres ressources aussi qu'on pourrait, j'ai dit bien trouver, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'y prend mal pour, au fond, rassurer des gens qui pensent que ça va être pire qu'avant, d'autant plus que toutes les réformes engagées jusqu'ici ont consisté à revenir sur des avantages acquis.
Est-ce que la grande grève annoncée le 5 décembre, et il est clair là aussi qu'elle sera importante, peut modifier la donne d'une façon ou d'une autre? On a compris que le Premier ministre s'était mis en avant et en gros, il fait le général napoléonien qui part en tête de cortège, quitte peut-être à risquer son poste. Est-ce qu'on peut avoir un vrai bouleversement alors qu'on sait très bien qu'on a des syndicats extrêmement affaiblis, on n'avait pas besoin du gouvernement pour le constater, même si en effet, vous avez raison, ils auraient pu les traiter de façon un peu plus aimable, c'est bien le minimum. Est-ce que vous pensez qu'il peut se passer quelque chose pendant ce mouvement ou que les Français peuvent avoir une fatigue par rapport à tout ça?
Il peut se produire une fatigue au bout d'un moment. Ce dont je suis sûr, c'est que vous conjuguez le sentiment d'injustice, l'angoisse, la volonté des syndicats de prendre une revanche sur tous les camouflets et humiliations qu'ils ont subis ces 15 dernières années. Vous avez de quoi mettre beaucoup, beaucoup de Français dans la rue. Ce que je crois aussi, cela étant, pour ne pas être totalement pessimiste, avec des débordements, hein, je le dis, il y a un risque, il y a une radicalisation, on le sait, il y a le sentiment que seule la violence paie. Le seul point positif que je vois, c'est qu'il reste au président de la République une carte à jouer, c'est lui-même. C'est la seule parole qui a du crédit en France aujourd'hui, c'est celle du président de la République. Donc à un moment, il peut sauver sa réforme. À un moment, il peut dire, au fond, renouer le fil de son récit qu'il a perdu lui-même et au fond, convaincre ceux qui restent des Français qui pourraient être convaincus.
Geoffroy Lejeune, je fronce les sourcils.
Ah oui, non, mais parce qu'en fait, je pense que le discours d'Emmanuel Macron n'a aucune prise sur les gens qui sont contre cette réforme et qui seront dans la rue et qui feront la grève à partir du 5 décembre. Moi, je veux vous dire, il y a non seulement le risque, objectivement, il ne faut pas la minimiser du tout, cette grève. Je pense que tout le monde se prépare à quelque chose d'un peu impressionnant. Et en plus, moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'au-delà de la grève, conjoncturelle sur la réforme des retraites, il y a tous ces petits incendies qui sont allumés partout en France, quasiment simultanément. Et je crois qu'en fait, aucun gouvernement, depuis très longtemps, n'a eu à gérer cette multitude de foyers. C'est-à-dire que vous avez cette semaine des agriculteurs dans la rue, même si Yves a raison, bien sûr, ils vont être gagnants dans la réforme des retraites, mais en attendant, ils étaient dans la rue pour beaucoup de raisons, ils étaient là. Il y a quelques semaines les pompiers, les policiers, vous savez, toutes ces fonctions régaliennes qui tout à coup commencent à se révolter. L'hôpital, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Moi, je me dis, si demain...
Ça s'appelle tous contre Macron ?
Je ne sais pas, ça s'appelle, vous savez, on a beaucoup théorisé pour essayer de comprendre si c'était une convergence des luttes ou juste une juxtaposition, une coagulation. C'est très intéressant. À la fin, c'est le résultat est le même. En effet, tout le monde est dans la rue contre Macron.
Le paradoxe, c'est tous contre Macron et en même temps, tous avec Macron. Souvenez-vous de ce que les habitants de Rouen Rouen l'ont dit quand il est venu, pourquoi nous avez-vous abandonné jusque-là? Il y a un côté président thaumaturge chez nous. Alors, ça ne va pas être tout de suite, hein. Il va falloir laisser passer... Macron dit qu'il faut laisser dégorger les escargots. Je ne suis pas sûr que l'expression soit très élégante, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça.
On a enchaîné les références littéraires, puis... De commerce de bouche. Merci beaucoup Nicolas Domenac, magazine littéraire et Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. Je vous rappelle notre rendez-vous politique du week-end sur RTL. Dimanche à midi, Gérard Larcher, président du Sénat, sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
L'actualité vous concerne.
Venez en débattre au 32.